Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. L'art de bien mourir. L'automne fait frissonner. J'ai vécu assez longtemps et le chemin de ma vie se perd dans les feuillages jaunes et séchés, fait dire Shakespeare à Macbeth. Une image véhiculée dans les dictons populaires, la mort rôde et plutôt que de la fuir, il convenait de s'en faire, sinon une amie, une alliée. Comment ? En méditant. C'est ainsi que les arts de bien mourir, ars moriendi, devinrent courants tout au long des 15e et 16e siècles. Un des sujets les plus débattus durant la période médiévale, il revint en force vers 1470. L'apparition de l'imprimerie n'était pas étrangère. Elle avait donné une voix nouvelle à l'Église, et l'impression en latin puis en langue vulgaire d'ouvrages pieux permettait aux chrétiens qui savaient lire une méditation personnelle et non plus collective sous la direction d'un prêtre. L'Église ne pouvait non plus laisser échapper des textes, même anciens, dans la nature, sans les contrôler. On estime à 75% au moins la proportion des ouvrages religieux dans la production typographique entre 1445 et 1520. Le premier du genre, l'Ars Bene Moriendi, imprimé à Venise en 1478, connut une extraordinaire diffusion. Cette première édition, avec texte latin, aurait pour auteur Mathieu de Krokoff, évêque de Worms. On a cru pendant longtemps que son auteur était Dominique de Capredlacca, cardinal de Fernio, mais on a découvert qu'il en était le traducteur italien. On a cru longtemps que son auteur était Dominique de Capranica, cardinal de Fernio, mais on a découvert qu'il en était le traducteur en italien. Ce texte fut de nombreuses fois réimprimé, notamment à Paris par Guy Marchand, en 1483, et fut suivi d'un grand nombre d'ouvrages du même type augmentés de différents morceaux. À noter que cette édition de Guy Marchand comporte la première marque de libraire ou d'imprimeur. Les Ars Moriendi avaient une valeur pédagogique. Ils étaient destinés à se familiariser avec la mort avec laquelle il convenait d'en faire une amie. Ces traités de bien mourir, s'ils sont aujourd'hui une indication pour les bibliographes de l'origine des danses des morts, il convient de ne pas les confondre. Citons ainsi le Tractatus de Arte Bene Vivendi et Bene Moriendi qui sortit des presses le 20 octobre 1501. Trois éditeurs, Alexandre Aliot, Antoine Nélidel et Denis Ross, s'étaient réunis pour réaliser cet ouvrage. Stanislas de Gaïta, le célèbre ésotériste de la fin du XIXe siècle, en possédait un exemplaire marqué par son équilibris. Ce qui tendrait à prouver que même les familiers de l'au-delà ne manquaient pas d'humilité devant la mort. Au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, un religieux espagnol, le père David de la Vina, composa Espejo de Buena Morte, illustré par des gravures de Romain de Hoge, commissaire du roi à Amsterdam et également auteur de cartes côtières. Cet ouvrage fut repris et adapté par un certain Cher Tablon, qui lui donna comme titre « La manière de bien se préparer à la mort » et le fit imprimer en vers en 1700 par Georges Gallet, non sans avoir auparavant fait recopier les 42 gravures de Hoge. Cette édition comporte aussi une préface intitulée « Sur l'origine et la crainte de la mort ». À noter qu'il ne faut pas confondre avec l'art de bien mourir l'ouvrage de Jos Clijsthoff, De Doctrina Moriendi Opusculum Necessaria ad Mortem Felicitare, qu'imprima Simon de Colline en 1520. Il s'agit de la première édition du Doctrinal de la mort par le théologien flamand et chanoine théologal de Chartres, qui fut l'un des premiers réfutateurs de Luther. Cette édition est illustrée sous le titre d'un bois figurant une tête de mort tenant un os entre ses mâchoires, répété à la fin du volume. Peu à peu, ces arts de bien mourir se transformèrent en art de bien vivre, mais ceci est une autre histoire. Méfiance tout de même. Nous avons sous les yeux un petit ouvrage, Le Miroir des âmes, édité à Lyon et à Paris en 1846 par Péris, dont l'une des gravures représente un coulpe d'encens. À y regarder de plus près, et vraiment de plus près, on s'aperçoit que l'un de leurs bras et l'une de leurs jambes sont déjà réduits à l'état de squelette. Car ces deux personnes se sont, je cite, « mises dans un état d'indécence et avec des parures de luxe et de vanité. Leur danse frivole et voluptueuse montre l'état dans lequel ils seront un jour. »